Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Heureux de vous savoir nombreux à écouter cette tranche horaire dédiée à l'information économique sur Radio de la Paix. Bienvenue à Economia qui s'intéresse aujourd'hui et pour deux semaines à cette question que se posent plusieurs Africains, notamment la souveraineté monétaire. Comment l'acquérir au-delà de la politique, elle est surtout économique et nous avons un expert pour nous l'expliquer dans le cadre de la rubrique Regard sur la gestion de l'économie nationale. Et il n'est plus à présenter, nous serons avec M. Onozon Faustin, économiste, expert en intelligence économique. Ça sera dans moins de 5 minutes le temps d'expliquer quelques notions économiques que vous entendrez dans cette émission. Démarrons avec le lexique économique et à ne surtout pas oublier vers la fin de cette émission les tendances de la bourse avec Quaobris. Merci de nous suivre.
Le lexique économique.
La souveraineté monétaire.
La souveraineté monétaire renvoie à cette notion de monnaie souveraine qui est une monnaie créée par la volonté d'un État ou un groupe d'États et cette monnaie est émise le plus souvent sous le contrôle d'une banque centrale. En effet, chaque pays en tant que nation indépendante peut avoir sa propre monnaie officielle sur son territoire, une monnaie qui est déclinée en moyens de paiement ayant cours légal. On peut alors évoquer une souveraineté monétaire.
Les avoirs monétaires.
Un avoir est d'abord tout bien que quelqu'un possède. En comptabilité, c'est la partie d'un compte où les sommes reçues sont enregistrées. Les avoirs monétaires donc comprennent les créances des autorités monétaires sur les non-résidents sous les formes de monnaie, de dépôts bancaires, d'obligations et autres titres d'emprunt, des instruments du marché monétaire, des produits financiers dérivés, des titres de participation.
La monnaie.
La monnaie, c'est un moyen d'échange, à savoir un moyen de paiement ayant une valeur qui est fiable aux yeux de tous et acceptée aussi par tous. La monnaie est également une unité de compte permettant d'établir le prix des biens et des services. La monnaie, pour parler de ses rôles, est donc un intermédiaire des échanges et sert donc à payer une marchandise. C'est une unité aussi de compte et permet de compter et c'est une réserve de valeur. La monnaie peut être stockée.
Regard sur la gestion économique nationale.
Toujours heureux de vous retrouver à mes auditeurs dans cet espace que vous connaissez maintenant. Regard sur la gestion de la politique nationale. On s'intéresse à des sujets qui, bien sûr, vous permettent de mieux comprendre le mécanisme économique d'un pays. Et nous sommes avec notre expert, M. Onozon Faustin. M. Faustin Onozon, bonjour.
Bonjour.
M. Faustin Onozon, nous parlons d'économie encore aujourd'hui. Nous allons nous intéresser à la balance des paiements. Hein, un document que vous nous avez présenté, expliqué. Mais en relation avec le processus de création d'une monnaie. En quoi la balance de paiement est un élément important justement dans cette utilisation de la monnaie? Vous allez nous expliquer tout cela en détail. Alors on rappelle pour ceux peut-être qui n'ont pas suivi, la balance de paiement c'est quoi et ça se présente comment?
La balance de paiement c'est un document qui permet de mettre en relief toutes les relations financières entre un pays et l'étranger sur une période de 12 mois. Au-delà des 12 mois, les opérations qui sont réalisées entrent dans le cadre de la comptabilité nationale. Mais de 0 à 12 mois, nous sommes bel et bien dans le cadre d'une balance de paiement.
Alors, cela nous amène à parler de la relation entre ce document qui est la balance de paiement et la monnaie. Puisque vous avez utilisé un terme, le solde monétaire, c'est quoi d'abord? Et puis, quelle est la relation entre la monnaie et puis la balance de paiement?
Alors, je l'ai dit, c'est l'épargne qu'on dégage dans le cadre de nos relations financières avec l'étranger. Et si vous voulez, c'est le solde monétaire. Là, c'est un stock. Au-dessus du solde monétaire, c'est des soldes économiques. Ce sont des compensations qu'on fait du début jusqu'à la fin de l'année. Mm-hmm. Et le solde monétaire, c'est réellement ce qu'on réalise vis-à-vis de l'étranger. Il peut être en yens japonais, il peut être en euros, il peut être en dollars des États-Unis d'Amérique, etc., etc. Et c'est ce solde-là qui devrait nous permettre, ou alors qui permet de mettre en relief la demande de monnaie intérieure. Parce que quand on n'a pas ce solde, disons à la fin de chaque année, que fait la Banque centrale? Il y a ce qu'on appelle une demande intérieure de monnaie qui relève de nos opérations financières avec l'étranger. Et cette demande de monnaie intérieure n'est plus être mise sur pied que si on a réalisé une épargne vis-à-vis de l'étranger. Et c'est cette épargne-là qui permet de mettre sur pied la masse monétaire en circulation. Et cette épargne-là prend le nom d'avoir extérieur net ou de réserve.
ou de réserve. Alors, on va comprendre un peu plus hein, ce que vous dites par rapport à ce solde monétaire. Concrètement, comme tout bon comptable, en fin d'exercice, on fait le point de ce qu'on a pu avoir. Si on a eu des investissements, on retranche tout ce qu'on aura pu mettre et c'est ce qui reste. Quand vous parlez d'épargne, après nos dépenses, ce qui reste, c'est ce qui est considéré comme l'épargne. C'est là l'idée du solde monétaire.
Oui, tout à fait. Mm-hmm. Parce que si vous n'avez pas réalisé une épargne vis-à-vis de l'étranger, en tant que pays ouvert sur l'extérieur, il vous sera difficile d'avoir des relations financières avec l'étranger. Mm-hmm. Il vous sera difficile d'effectuer des importations. Les importations ne les payent pas en monnaie locale. Elles sont payées en devises étrangères. Or, justement, c'est cette balance de paiement qui vous permet de mettre en relief le niveau des avoirs assurés nets que vous avez réalisés vis-à-vis de l'étranger. Et c'est ce niveau-là qui permet de mettre sur pied la demande de monnaie intérieure. De l'autre côté, on parle d'avoir extérieur net, mais au plan intérieur, on parlera des PIB. En fait, quand on parle des réserves annuelles, là, c'est de ça qu'il s'agit en réalité. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on a réalisé vis-à-vis de l'étranger? Mais on va au-delà du commerce. Le commerce se situe dans la première ligne, la balance de paiement. Mais après le commerce, il y a la balance des capitaux. Dans le cadre de cette balance des capitaux, qu'on appelle la balance des capitaux non monétaires, il y a, comme je le disais, les prêts, les emprunts, les ventes de nos bons obligations du trésor, etc., etc. Et là, on est dans un domaine économique et financier. On vous parlera d'un solde économique. C'est-à-dire, on fait des compensations jusqu'à ce niveau. Mais une fois que on a terminé l'année, mais il faut bien qu'on essaie de voir ce qu'on a réalisé.
C'est cela.
Ben, c'est ce qu'on a réalisé qui va nous permettre d'entamer l'année suivante.
Mm-hmm. Voilà. Pour et faire si, le bilan. Hein,
voilà. Et si on n'a rien réalisé, c'est fort possible que ce solde monétaire là soit positif. Or, logiquement, il doit être négatif. Et s'il est positif, ça veut dire qu'on a eu une balance globale qui est négative, donc qui n'est pas bonne. Mm-hmm. Alors, s'il est positif, il y a une chose à faire. C'est de nous adresser, soit dans le cadre des relations bilatérales, à des pays amis susceptibles de nous faire des prêts, ou alors, dans ce cas de figure, logiquement, c'est le Fonds monétaire international qui prend le relais pour gérer des problèmes de balance des paiements. Parce que si on n'a pas de devises, on ne pourra pas gérer nos relations financières avec l'étranger.
Vous parliez du solde donc monétaire. Justement, à quel moment ce document, le solde, intervient dans le processus?
Alors, c'est tout à fait simple. En fin d'année, vous faites ce qu'on appelle une variation de votre production nationale. Vous évaluez donc votre richesse nationale. Mais une fois cette richesse nationale évaluée, c'est ce qu'on appelle la variation du PIB, c'est-à-dire la somme de la consommation, de l'investissement et du solde du commerce extérieur. Alors, lorsque vous faites une évaluation de votre PIB, il va s'en suivre une demande de monnaie intérieure.
Oui, c'est
ceux qui ont fait le commerce doivent être payés. Mais pour qu'on puisse payer tous ceux qui font une demande de monnaie intérieure, mais il nous faut un équivalent en termes de devises. Mmh. Et c'est l'équivalent qui est représenté par les avoirs extérieurs nets, qui, eux, relèvent du solde monétaire de la balance des paiements. Alors, comment est-ce que ça se passe exactement? Dans l'équation, on va être un peu plus simple, qu'on réalise, il faudrait sensiblement que le PIB soit en adéquation, c'est-à-dire soit égal aux avoirs extérieurs nets. Mmh. Mais comme vous savez qu'en économie, il y a certains paramètres qui sont adossés à ces gros paramètres macroéconomiques. Voilà, et donc il faut tenir compte de la vitesse de circulation de la monnaie.
C'est-à-dire, sans vous couper, la vitesse de circulation, en quoi elle est importante pour un économiste, connaître son rythme de circulation, en quoi c'est important?
Mais c'est important parce que si vous n'en tenez pas compte, ben, vous allez certainement produire plus que vous n'en avez besoin. Voilà, la vitesse de circulation, c'est le nombre de fois qu'un signe monétaire change de main avant de s'éteindre, ou alors d'être thésaurisé par exemple, ou alors d'être déposé à la banque.
Concrètement, monsieur Onoson, vous venez acheter quelque chose en tant que commerçant chez moi, vous prenez la marchandise, vous me donnez l'argent, moi aussi, puisque je suis un vendeur, je vais aller chez le grossiste, je lui remettrai une certaine somme qui lui va aller à la banque qui va prêter à d'autres personnes, c'est ce processus-là que vous analysez?
Oui, tout à fait, mais je voudrais être encore un peu plus précis, puisqu'on parle de vitesse de circulation.
Justement.
Voilà, et cette vitesse est adossée au PIB, voilà, il faut en tenir compte.
Le PIB, qu'on rappelle, le produit intérieur brut.
Voilà, dans le cadre de l'élaboration de la fonction de demande globale de monnaie, qui doit être en adéquation avec la fonction d'offre globale de monnaie. Mais à l'offre globale de monnaie est adossé le crédit intérieur net, qui est le crédit au secteur public ou le crédit au secteur privé.
Mais qui demande la monnaie, M. Onoson?
Mais vous demandez de la monnaie, moi je demande la monnaie. Les ménages demandent la monnaie, les opérateurs économiques demandent la monnaie, les opérateurs économiques font des transactions, vendent du café, du cacao, du bois, de la banane, des produits semi-finis, des produits finis. Mais il faut bien que ces opérateurs soient payés. Donc, il y a une variation qui s'est faite en fin d'année. On dit, voilà ce qu'on a eu. Elle n'est pas gratuite. Mm-hmm. Mais ce qu'on a eu, ça correspond à quelque chose. D'un c'est côté, ça. On a la variation du PIB, qui est mm-hmm. la richesse nationale. Mais il faut bien qu'on remette cette richesse à qui des droits.
C'est cela.
Voilà. Et de l'autre côté, c'est toute la richesse mm-hmm. hein, qu'on appelle les avoirs extérieurs nets. Autant on adosse au PIB la vitesse de circulation de la monnaie, de l'autre côté, il y a le crédit intérieur net, qui est le crédit au gouvernement, et puis le crédit à l'économie. Voilà un peu comment ça se présente, cette équation. C'est un peu comme si vous avez travaillé. Mm-hmm. Mais si vous finissez de travailler, mais il faudrait bien qu'on vous paye à la fin du mois.
Donc, dans nos activités de tous les jours, c'est une demande qu'on formule. Monsieur Nozon qui travaille le matin, Monsieur Comé, à la fin du mois, on est rétribué en principe.
Mais tout ça? À fait. La richesse qu'on a eue en fin d'année, c'est elle qui est redistribuée l'année prochaine. Et là, les transactions qu'on fait cette année, elles vont nous donner aussi des avoirs extérieurs nets en fin d'année mm-hmm. qu'on va étudier l'année prochaine. Mm-hmm. Voilà un peu comment ça se passe.
Alors, justement, on parlait du processus, hein, l'importance de solde monétaire dans ce processus-là, justement de création de la monnaie. Par exemple, avoir un solde monétaire négatif, dans ce cas, quelle est la suite du processus?
Qu'on ait un solde monétaire négatif positif, mais on reviendra au solde monétaire positif après, l'objectif, c'est d'avoir de la monnaie pour traiter des échanges. Et on a travaillé, on a un PIB, un produit intérieur brut, qui exprime notre richesse nationale. Et ce PIB, il faut bel et bien l'exprimer, parce que sa variation va nous donner une demande de monnaie intérieure. Et on regarde dans notre judiciaire, au plan international, mm-hmm. mais qu'est-ce qu'on détient? C'est l'équivalent de ces PIB qu'on doit détenir mmh. au plan extérieur. C'est-à-dire en termes d'avoir extérieur net. Et ce qu'on détient devrait nous permettre logiquement d'adosser à la demande de monnaie intérieure. S'il n'y a pas ça, ben, il sera difficile de mettre sur pied une masse monétaire en circulation. Pourquoi? Vous pouvez le faire, hein. Vous pouvez faire fi de tout cela, mais attendez-vous à une inflation galopante parce que la monnaie n'est pas couverte. Dès lors où elle n'est pas couverte, vous allez attirer vers vous tous les maux. C'est-à-dire que ce sera des déséquilibres à ne point en finir et l'économie va commencer à se détériorer. C'est pourquoi il faut respecter absolument, dans le cadre d'une demande de monnaie intérieure, il faut respecter certains principes. Il faudrait qu'elle soit adossée à des avoirs extérieurs nets. C'est pour vous dire que ne gère pas de la monnaie qui veut. Mmh. Vous pouvez faire ce que vous voulez certainement en tant qu'État, en tant que pays, mais à ce niveau, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Mmh. Parce que si vous produisez de la monnaie, parce que vous détenez certainement vous-même votre propre monnaie, bon, personne ne peut vous obliger à ne pas faire des tirages lorsque vous en avez besoin, pour payer vos fonctionnaires, pour payer tout ce que vous voulez, pour payer votre dette intérieure. Mais cette dette intérieure que vous allez payer, les opérateurs économiques vont prendre cet argent pour importer des marchandises. Mais si vous n'avez pas de devises, ils ne pourront pas importer des marchandises. Et au plan intérieur, les marchandises qui ont déjà été importées, qu'on ne peut pas remplacer, qu'on ne peut pas augmenter, mais les prix, eux, ils vont augmenter. Mm-hmm. Et cela va entraîner une inflation. Voilà.
Nous comprenons un peu le processus, c'est dire que les devises sont un peu des garanties pour notre propre monnaie, c'est cela.
C'est bien ça, c'est bien ça. Et même si vous n'avez pas de devises, c'est pourquoi il est conseillé en tant que pays d'être en programme avec le Fonds monétaire international.
Et ça fait toujours polémique, hein, relation entre le FMI et bien sûr la Banque mondiale aussi, hein, pendant qu'on y est, avec certains pays. D'autres parlent de souveraineté. Nous allons aborder justement cette question de souveraineté. Est-ce que cette souveraineté doit forcément amener à la création d'une monnaie, parce qu'on entend, surtout en Afrique, il faut être souverain avec sa propre monnaie, parce qu'on reproche des fois des monnaies qu'on qualifierait de coloniales. L'avis de l'économiste que vous êtes, Faustin Onozon.
Merci. Moi, j'ai ma propre position. Une monnaie, c'est un moyen d'échange. Et pour pouvoir produire cette monnaie, pour pouvoir mettre sur pied une masse monétaire en circulation, il faut effectivement que celle-ci soit en adéquation avec le niveau des devises. Alors, chaque pays peut produire sa monnaie comme il le veut et comme il entend. D'aucuns disent que lorsque vous avez votre propre monnaie, c'est que vous avez votre souveraineté. Mm-hmm. C'est qu'elle n'a pas été écorchée. Mais la souveraineté ne commence pas forcément par la monnaie. Il y a d'abord une souveraineté physique. Ouais. Lorsque votre pays a été amputé, il y a une guerre ou alors un cas de force majeure et qu'un autre pays s'installe dans votre pays, vous ne pouvez pas dire que vous avez votre souveraineté. Mm-hmm. Donc, admettons que à ce niveau, vous n'avez pas de problème. Maintenant, vous avez la capacité de créer votre monnaie. Mais ne créez pas, comme je l'ai toujours dit, une monnaie qui veut. Il faut jeter un coup d'œil sur sa balance des paiements extérieurs. Est-ce que nous réalisons des réserves? Est-ce que nous avons des devises? Mais si on n'a pas de devises, si on n'a pas de réserves, les réserves sont des devises. Pour moi, il serait difficile de procéder à une création de monnaie qui vous est propre, parce que vous n'en avez pas la capacité. Voilà un peu comment cela se passe. Donc la souveraineté pour moi, c'est d'abord avoir la capacité de détenir un solde monétaire largement négatif. La souveraineté pour moi, c'est d'avoir une première ligne au niveau de la balance des paiements qui est largement positive, c'est-à-dire une balance des opérations courantes positive. Si ces deux aspects peuvent être gérés correctement au fil des ans, et si ça se bonifie chaque année, si vous devenez très fort, si vous avez une balance des paiements qui est très forte, vous avez des aspects dans le cadre de votre commerce international. C'est peut-être votre sous-sol, pour certains c'est de l'or, c'est du diamant, pour d'autres c'est du pétrole, pour d'autres aussi c'est du café, c'est du cacao. Mais si cela peut vous donner des fonds d'une manière régulière, mais je dis qu'il n'y a aucun problème. Là, moi je peux parler de souveraineté. Mais si vous n'êtes même pas capable d'avoir une balance de paiement correcte, cohérente, et votre solde monétaire est toujours positif, largement positif, et vous avez besoin des autres pour pouvoir émettre votre monnaie, pour pouvoir satisfaire la demande des monnaies intérieures. Mais j'ai dit, monsieur le journaliste, qu'on ne peut pas parler de souveraineté. Vous n'avez même pas le droit d'en parler.
C'est un sujet vraiment très intéressant. Nous allons nous arrêter sur ce point. Merci à vous, monsieur Onozon.
Merci.
Tendance de la bourse.
Merci de suivre votre émission Economia. La dernière rubrique s'intéresse aux tendances de la bourse. C'est donc l'espace réservé à l'actualité boursière. Nous sommes avec un spécialiste de cette question, initiateur d'un centre de réflexion sur les questions boursières, l'École de la Bourse. Nous sommes avec Kwao Brice. Monsieur Kwao, bonjour.
Bonjour, monsieur.
L'École de la Bourse, c'est votre initiative. Alors, pourquoi une école spécialement pour les bourses?
Nous avons constaté que depuis quelques années, les Ivoiriens ont un comportement particulier concernant les questions d'investissement. Pendant de longues années, nos parents épargnaient dans le système bancaire ou dans d'autres systèmes sans avoir une grande contrepartie, mais sans que ça ne les dérange particulièrement. Ils se contentaient de peu ou de presque rien. Mais depuis quelques années, les Ivoiriens sont plus enclins à investir. On l'a vu avec les maisons de placement, on l'a vu avec l'agro-business. Ce qui se cache derrière cette attitude, c'est un désir d'avoir plus sur leur épargne, sur leur effort. Ils ne veulent pas se contenter d'épargner, de rien avoir en contrepartie. Mais ce désir d'investir se fait malheureusement avec un certain niveau de connaissance assez faible, ce qui conduit à des prises de risques élevées dans des activités très discutables. Ce que nous avons constaté nous a amené à proposer aux Ivoiriens une formation sur comment investir avec succès. Quand je gagne de l'argent que je veux investir, comment je m'oriente, comment j'analyse les opportunités qui s'offrent à moi. On ne pouvait pas faire ce type de formation sans les conclure par un domaine d'investissement. Le domaine que nous avons retenu, c'est la bourse, notamment la BFVM. Donc former les gens sur l'investissement en général, mais plus particulièrement sur l'investissement en bourse, qui selon nous, peut revêtir pour la population des avantages indéniables.
Alors, la bourse, justement, le mot est donné, c'est un univers financier. Deux fois, nous entendons des termes que nous ne comprenons pas toujours. Cette notion de connaissance de la bourse n'est pas à portée de tout le monde. Vous avez décidé de créer une école. Justement, dans cette école, vous enseignez quoi concrètement?
Nous avons des cours d'initiation sur l'investissement en bourse qui répondent à des questions simples comme qu'est-ce que la bourse, qu'est-ce qu'on y vend, qu'est-ce qu'on y gagne, comment te représenter le marché financier. À la suite de ça, nous avons des questions un peu plus profondes comme comment investir avec les notions d'analyse fondamentale, d'analyse technique et de gestion de risque. Tous ces cours sont donnés en présentiel, mais avant ça, nous publions des articles dans la presse, sur les réseaux sociaux. Nous avons des vidéos de formation pour aider vraiment les gens à se rapprocher de la notion. Vraiment, au cœur de notre action, il y a cette idée de formation, d'aider à mieux comprendre le sujet.
Vous êtes un collectif d'investissement en bourse, oui ou non?
Non, nous nous sommes focalisés sur la notion de formation. Donc, nous avons effectivement des personnes ressources en notre sein, mais toute notre action se limite à former et accompagner les investisseurs. Il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas de produits vendus, il y a juste de la formation et de l'accompagnement des personnes formées.
Dans vos propos, vous avez parlé d'épargne. Justement, l'épargne, c'est quoi?
Le revenu, à la base, c'est le produit qu'on obtient après le travail qu'on fait. Le revenu peut être distingué en deux parties, la partie consommée et la partie non consommée. Donc une définition simple de l'épargne, c'est la partie non consommée du revenu allouée soit à une consommation future ou à la réalisation d'un projet. Donc quand on fait des études, on voit qu'en Côte d'Ivoire, le taux d'épargne est de 15%. Ça veut dire que les Ivoiriens récoltent leur revenu, ils n'arrivent à mettre de côté, à ne pas consommer que 15%. Déjà, il faut dire que ce taux est bas par rapport à d'autres zones, mais nous, nous travaillons déjà sur le fait de mieux utiliser cette épargne que de la laisser dormir dans les systèmes classiques électronique ou d'un système traditionnel comme les tontines. Donc, comment investir mon épargne avec succès?
Comment investir son épargne avec succès? Objectif donc de l'école de la bourse et bien sûr d'Economia à travers donc ce numéro. Nous avons décidé justement de présenter cette initiative de M. Kouao justement qui vous permettra sûrement de mieux comprendre l'univers de la bourse. M. Kouao, merci pour ces informations.
Merci, monsieur.
Mes auditeurs, merci d'avoir suivi donc cet espace, les tendances de la bourse. À la semaine prochaine pour un autre numéro.
Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.